Vous écoutez, on lit pour vous.
Mal au corps, c'est dans ta tête. Un texte de Valérie Simard, paru le 30 juillet 2023 dans La Presse. Valérie, bidégarée, a dû attendre 6 ans avant d'obtenir un diagnostic d'endométriose. Tracy Lindman, 24 ans. Des années à se faire dire que cette souffrance, c'est dans leur tête qu'elle a pris racine. Physiothérapeute, Caroline Arbour rencontre chaque jour des femmes à qui l'on répète que c'est normal d'avoir mal. Le hasard a voulu qu'elle ait chacune publié ces derniers mois un essai dénonçant la banalisation de la douleur féminine. Un hasard? Peut-être pas. Valérie Bidégarée et Tracy Lindman souffrent toutes deux d'endométriose, une maladie qui se caractérise par le développement de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus et qui peut entraîner des douleurs aiguës pendant les règles et lors des rapports sexuels, des saignements abondants et des douleurs pelviennes chroniques, notamment. Ce n'est pas une maladie rare. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle touche près de 10 % des femmes et des filles en âge de procréer, soit 190 millions de personnes dans le monde. Mais son diagnostic est complexe, comme pour le syndrome des ovaires polykystiques, qui toucherait entre 5 et 10 % des femmes. Dans Bleed, Destroying Myths and Misogyny in Endometriosis Care, Tracy Lindman compare l'endométriose à une boîte noire. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte et il semble que personne ne le saura jamais. Pour de nombreuses femmes, cette complexité entraîne un diagnostic tardif. Des années d'attente à penser que cette douleur est normale ou à se faire dire qu'elle l'est pendant que la maladie, elle, s'installe et s'étend. C'est dans ta tête, et d'ailleurs le titre de l'essai de Valérie Bidégarée, faisant écho à une phrase que l'ancienne journaliste, maintenant éditrice et blogueuse, s'est fait dire par sa médecin après qu'une énième batterie de tests n'a rien montré d'anormal. Ça m'a heurté. C'est comme si elle ne considérait pas que j'étais apte à savoir ce qui se passait dans mon corps, se souvient Valérie Bidégarée. Règles abondantes au point qu'elle ait toujours besoin d'un kit de rechange au travail et douloureuse au point de devoir s'en absenter. Douleur lors des relations sexuelles et lors de la course. Pour elle, quelque chose ne tournait pas rond. Il aura fallu l'arrivée d'une spécialiste en santé de la femme à sa clinique de médecine familiale pour qu'elle obtienne un diagnostic et un traitement efficace pour soulager ses symptômes. Dans son cas, un progestatif couplé à des traitements de physiothérapie. Pour Tracy Lindman, une journaliste indépendante originaire de Montréal, aujourd'hui établie en Outaouais, c'est en déménageant qu'elle a pu rencontrer un gynécologue prêt à pratiquer l'hystérectomie qu'elle s'était vue refuser pendant plusieurs années, malgré sa profonde certitude de ne pas vouloir d'enfant. Atteinte d'une endométriose de stade 4, et d'adénomyose, une maladie utérine, elle avait le sentiment d'avoir tout essayé pour soulager ses symptômes. Pilule anticonceptionnelle, naproxène, stérilet Mirena. Pour elle, l'opération était la dernière option. Elle l'a obtenue en juin 2020, puis a décidé de prendre la plume. Bleed, paru en anglais en mars dernier, devrait prochainement être traduit en français. Si son livre voit le jour cette année, en même temps que ceux de Valérie Bidégarée et Caroline Arbour, c'est qu'une porte s'ouvre dans l'espace public pour parler de ce sujet, croit Tracy Lindman. Les femmes voulaient en parler depuis très longtemps, mais de mon expérience, les maisons d'édition n'étaient pas prêtes, selon Tracy Lindman. La faillite du système. Dans ce récit personnel arrimé à une grande enquête journalistique, elle raconte l'histoire d'une quarantaine de femmes pour qui le système de santé a failli. Des femmes cis, des transgenres, des femmes noires, autochtones, des femmes grosses et d'autres moins. « J'ai attendu 24 ans », rappelle-t-elle. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore de réponse. Il y a des plus jeunes qui ont déjà reçu un diagnostic. C'est différent pour chacune. Ça dépend de votre région, de votre apparence, de votre race, de votre orientation sexuelle. Ce sont tous des facteurs qui influencent les soins. Pourquoi tout le monde ne peut pas avoir accès à la santé idéale? Mes connaissances du corps féminin, essais cliniques réalisés sur des hommes, croyance selon laquelle l'utérus a une incidence sur les traits de caractère, rendant les femmes plus émotives et moins rationnelles. La minimisation de la douleur féminine a des assises profondes dans l'histoire de la médecine. Ces mythes-là sont restés bien ancrés dans la société et dans l'enseignement donné aux futurs médecins, souligne Valérie Bidégaré, en s'appuyant sur les entrevues qu'elle a menées avec des spécialistes de la santé, une anthropologue et une historienne. La femme a toujours été laissée de côté. Il faut que ça change. La féminisation de la profession ne réglera pas tout. C'est une femme qui m'a dit que c'était dans ma tête, précise-t-elle. On a des siècles et des siècles de retard à rattraper en santé de la femme, acquiesce Caroline Arbour, physiothérapeute spécialisée en santé périnéale et pelvienne et autrice d'Habiter nos corps. Il y a une grosse prise de conscience à faire du côté des médecins et de tous les professionnels de la santé. La douleur doit aussi être mieux comprise. On n'est pas formé en douleur ou simplement pour comprendre la science de la douleur, peu importe la maladie. Je l'ai appris un peu pendant mon parcours, mais beaucoup en écrivant ce livre. J'ai fait un bac en physio, mais il a fallu que je tombe enceinte pour savoir que j'avais un plancher pelvien. Ça n'a pas de bon sens, soupire Caroline Arbour. Dans son essai, elle décortique les rouages de la douleur et soutient que la normaliser contribue à en nourrir le cercle vicieux. On vit dans une culture de la douleur du sexe féminin, affirme-t-elle sans détour. On dit aux petites filles qu'être menstruée, ça va faire mal. Accoucher, ça va faire mal. Faire l'amour, ça va faire mal. Comme si tout ce qu'on va vivre qui est féminin va nécessairement ouvrir la porte à la douleur. C'est dès le jeune âge que ces mythes doivent être déconstruits, pense-t-elle, et pas seulement entre femmes. Les hommes doivent aussi faire partie de la conversation, croit celle qui est mère de deux garçons. Il y a vraiment beaucoup de choses à corriger, mais on peut commencer par dire aux jeunes que ce n'est pas normal, ajoute Tracy Lindman. Si j'avais entendu ça quand j'avais 14 ans et pas 30 ans, je n'aurais pas perdu autant de temps. La journaliste souligne qu'une femme atteinte d'endométriose sur 6 a perdu un emploi, une donnée tirée d'une étude australienne publiée en 2021. « J'ai manqué au moins 100 cours pendant l'année de mon secondaire 5. C'est économique et systémique, mais à ses yeux, certainement pas normal. » C'était « Mal au corps, c'est dans ta tête », un texte de Valérie Simard, paru le 30 juillet 2023 dans La Presse.
Louer ou acheter, telle est la question, un texte de Sandy Lachapelle, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir. L'être humain désire souvent ce qui est hors de sa portée. Je peux humblement témoigner de ce phénomène. Ayant subi une blessure musculaire l'an dernier, je n'ai jamais autant rêvé de pouvoir pratiquer à nouveau certains sports. L'interdit engendre l'attrait. L'accès à la propriété depuis 2020 n'échappe pas à cette tendance naturelle. Depuis que l'offre immobilière est de plus en plus restreinte, il semble que les gens n'ont jamais autant aspiré et réfléchi à la façon de devenir propriétaire. En pleine pandémie, les phénomènes de surenchère ont bien démontré qu'acheter une résidence est, dans bien des cas, le fruit d'une transaction beaucoup plus émotionnelle qu'un investissement réfléchi. Où en sommes-nous quelques années plus tard? Aux prises avec des taux d'emprunt élevés, un endettement des ménages et une diminution de l'épargne. Évidemment, la liberté et les économies traditionnellement associées au statut de locataire sont aussi en profonde transformation. Le manque d'abordabilité des logements est de plus en plus criant, conséquence de la rareté des logements. Récemment, une chronique nous a permis de statuer qu'une de nos lectrices n'avait pas à précipiter l'achat de sa première résidence pour atteindre ses objectifs. Comme tant d'autres, son cas illustre bien qu'il importe plus que jamais de pousser plus loin la réflexion et de ne pas s'arrêter au mythe entourant le choix de devenir propriétaire ou de demeurer locataire. Stéphane Desjardins, l'auteur de « Louer ou acheter », détaille dans son nouvel ouvrage tous les avantages et inconvénients reliés aux deux options. Rappel de quelques angles de réflexion essentiels à considérer lors de la préparation d'un projet immobilier. Évaluer ses capacités financières. Souvent négligée, même si elle est connue de tout un chacun, l'étape de l'évaluation budgétaire est requise pour 99% de la population, même pour les ménages ayant un revenu annuel élevé. Il ne s'agit pas de se limiter à l'obtention d'une préapprobation bancaire pour le financement. Les coûts d'emprunt, d'aménagement, d'entretien sont souvent sous-estimés, qu'il s'agisse de la première maison ou non. Sans révision budgétaire, le risque le plus grand est de sabrer sournoisement son épargne pour les plus avantagés ou de s'endetter pour ceux dont la capacité financière est plus limitée. Dressez la liste de vos besoins réels en matière de logement ainsi que de vos priorités et valeurs personnelles et familiales offre une clé supplémentaire vers un achat financièrement sain et sensé. Si vos besoins excèdent vos moyens, l'option de la location devrait être considérée le temps de revoir votre projet. Le mythe de la rentabilité immobilière. Ceux qui affirment qu'une maison prend toujours de la valeur ne sont pas toujours précis dans leurs calculs. D'abord, ont-ils inclus le temps consacré à l'entretien et aux travaux? Ont-ils ajouté toutes les dépenses inhérentes à leur achat au fil des années? Exemple, refaire la décoration est souvent une dépense pure, ou encore ajouter une piscine ou un gros aménagement extérieur. Y compris celles accusées par la bande, comme l'augmentation des frais de transport? Ont-ils fait leur calcul en dollars courants ou constants? Disons que tout cela diminue énormément la rentabilité finale si on le compare avec un placement passif sur les marchés boursiers. Dire qu'acheter une maison est une épargne forcée, je veux bien. Mais tout miser dans ce placement fortement immobilisé ne se justifie pas dans un plan financier global. Magasiner sa résidence, puisqu'elle participe plus au confort qu'à l'enrichissement, est un impératif. Même si la rareté sur le marché peut vous faire sentir inconsciemment que vous n'avez pas d'autre choix. Même pour ce qui touche à l'immobilier commercial, dans un contexte de taux d'intérêt élevé, vous devez effectuer une analyse de rentabilité à court terme pour bien comprendre les défis de gestion de liquidité qui vous attendent peut-être. Liberté ou responsabilité. Le rêve de la propriété peut être vécu comme un cauchemar par plusieurs. Entre louer ou acheter, il n'y a pas de réponse universelle. Dans le comparatif, la dimension financière est bien sûr prépondérante, mais que dire de tous les éléments de réflexion plus subjectifs qui s'ajoutent? Pensons par exemple aux aptitudes et à l'intérêt pour les travaux de rénovation ou au temps libre sacrifié pour entretenir la maison. Même si votre décision est prise en faveur d'une acquisition, ce type de réflexion pourrait modifier votre projet. Par exemple, en vous poussant à ne pas acquérir une maison trop grande pour vos besoins, ou trop loin de votre travail, sacrifiant ainsi votre qualité de vie. Et que dire des options de coopératives d'habitation qui pourraient gagner en popularité si elles étaient mieux connues de ceux pour qui les valeurs du partage et de la communauté sont importantes? Puisque l'achat d'une propriété revêt un caractère émotif, vous pouvez vous protéger vous-même ou protéger vos enfants en misant sur l'augmentation de votre littératie financière ou la leur. En ce sens, pour plusieurs, la lecture d'un guide pratique comme celui de M. Desjardins serait à considérer bien avant de vous poser la question entre CELIAP, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, et REER, un régime enregistré d'épargne retraite, pour la mise de fonds. C'était « Louer ou acheter, telle est la question », un texte de Sandy Lachapelle, paru le 12 avril 2024 dans Le Devoir.
La bienveillance avant tout, un texte d'Olivia Lévy, paru le 30 juillet 2023 dans La Presse. Ted Lasso, c'est le nom du coach de soccer de l'AFC Richmond, équipe fictive anglaise de Premier League de la populaire série du même nom. Ted Lasso, c'est aussi le triomphe de la bienveillance et du dépassement de soi. C'est un entraîneur qui ne se fâche pas, qui comprend ses joueurs et qui fait ressortir le meilleur d'eux-mêmes, dans la douceur. Est-ce possible? Y a-t-il un effet Ted Lasso dans le sport, mais aussi dans la vie? Selon Patrice Bernier, ancien joueur de l'Impact de Montréal, Ted Lasso est un modèle inspirant. Je viens d'une époque où les coachs étaient plus autoritaires, une époque où il fallait montrer son mécontentement pour faire ressortir la motivation, explique-t-il. Je ne pense pas que beaucoup de coachs aient autant d'empathie que Ted Lasso, mais j'observe qu'il y a un changement de comportement. Le leadership moderne dans le sport où le travail est axé sur l'empathie et la bienveillance, sur le fait de comprendre l'autre, et on le voit de plus en plus. Patrick Leduc, directeur culture soccer du CF Montréal, partage cet avis. Il voit de moins en moins de coachs de la vieille école, ce qui est une bonne nouvelle. « Je suis un ancien joueur, j'ai coaché des jeunes, et Ted Lasso apporte une autre perspective. Tu n'as pas besoin d'être un dur de dur pour faire ressortir le talent, c'est ça le message, dit-il. On a des jeunes sportifs plus anxieux, et un Ted Lasso est capable de faire ressortir le meilleur, dans la bienveillance et l'empathie, car les joueurs se sentent en confiance, affirme Patrick Leduc. La crainte de certains coachs, c'est qu'en ayant de l'empathie, on n'est pas assez exigeant, mais dans le respect, on obtient des résultats, et la série aide à changer les mentalités. Faire ressortir le meilleur. Pour le sociologue Michel Doré, professeur titulaire retraité de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, la façon dont Ted Lasso s'adresse à ses joueurs est presque, à ses yeux, un cours d'intervention sociale. Ted Lasso est un expert du recadrage. Son regard différent sur les situations de crise oblige à voir autrement les choses, ce qui est une technique très efficace de thérapeute, affirme Michel Doré. Selon lui, il faut valoriser les comportements bienveillants et montrer que dans la vie, le travail et le sport, c'est gagnant. Il cite en contre-exemple l'entraîneur Jacques Mercier de la série Lancer Compte qui hurlait dans le vestiaire contre ses joueurs. Encore aujourd'hui, beaucoup de gens ont ce modèle en tête. Il faut s'en débarrasser et le remplacer. On progresse, mais il y a encore du travail à faire, observe l'auteur de la masculinité antitoxique. Selon le chroniqueur David Desjardins, cofondateur de l'agence La Flèche, plusieurs exemples viennent du monde du sport, mais aussi de celui des affaires. On est dans les extrêmes, car il y a encore des modèles de managers qui pètent des coches à la Elon Musk, et de l'autre côté, il y a des chefs d'entreprise calmes et bienveillants. Je suis convaincu que d'être à l'écoute, de soutenir ses collègues et employés, c'est là que la motivation sera la meilleure. Les gens seront plus efficaces, avec plus de loyauté, mais on ne change pas une culture du jour au lendemain. Les valeurs positives du sport. Le sociologue Michel Doré rappelle qu'il y a beaucoup de valeurs positives et humanistes dans le sport. La loyauté, le dépassement de soi, l'esprit d'équipe, le plaisir de jouer. Mais on les oublie quand on est à la recherche de la victoire à tout prix. Il faut promouvoir et répéter sans cesse aux jeunes les valeurs de l'équipe, la solidarité, l'empathie, la compassion, explique-t-il. Je vais commencer à former les coachs de la LHJMQ, Ligue de hockey junior majeur du Québec, à la bienveillance et sur la façon d'éradiquer les comportements toxiques chez les joueurs. Et je vais très certainement leur parler de la série, qui est très inspirante. C'est un grand virage à faire dans notre société, croit-il, en particulier dans le sport, car ce domaine constitue le reflet de ce que nous sommes. Le sociologue remarque qu'il est difficile de convaincre les gens en poste de consacrer de l'argent à des formations sur la bienveillance. C'est un bon investissement. Le joueur ne sera pas moins combatif sur le terrain ou sur la glace. Au contraire, il sera meilleur et les équipes plus soudées. Et quand les gars de l'équipe feront la première page des journaux, ce ne sera pas à cause d'actes inappropriés, mais parce qu'ils auront gagné. Quand on parle de saine compétition, la plus belle image qu'a Michel Doré en tête est celle de Roger Federer et Raphaël Nadal, l'un contre l'autre, lors du dernier match de Federer. Deux grands amis qui étaient rivaux sur le terrain. Le vrai adversaire, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. C'est se dépasser soi-même et gagner. C'est ça la nuance, souligne-t-il, en rappelant que la bienveillance porte ses fruits. J'ai été athlète et je peux vous dire que tous les athlètes ont besoin d'affection, car nous sommes de grands émotifs, dit-il. Les jeunes générations perçoivent le leadership comme quelque chose de respectueux qui se passe dans l'échange et la compréhension, alors on va dans la bonne direction. Patrick Leduc croit que le phénomène Ted Lasso va s'installer dans le sport. Le bien-être des joueurs passe avant tout, et être optimiste, ça encourage à se dépasser. La série Ted Lasso est disponible sur Apple TV+. C'était « La bienveillance avant tout », un texte d'Olivia Lévy paru le 30 juillet 2023 dans la presse.
Les choses que Isaac Asimov peut encore nous apprendre. Un texte de Martin Gilbert, paru le 7 juillet 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Même s'il est décédé une quinzaine d'années avant l'invention du iPhone, le romancier iconoclaste et pionnier de la science-fiction a façonné notre imaginaire collectif vis-à-vis les robots. Et il y a encore des leçons à tirer de ses écrits, selon l'auteur de « Faire la morale aux robots », notre document 17. En voici un extrait. En 1942, soit 14 ans avant la conférence de Dartmouth, qui marque la naissance de l'intelligence artificielle, l'écrivain de science-fiction Isaac Asimov proposait déjà une réponse au problème du contrôle et de l'alignement. Dans sa nouvelle « Cercle vicieux », il édicte ces fameuses lois de la robotique. 1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, en restant passif, permettre qu'un être humain ne soit en danger. 2. Un robot doit obéir aux ordres qui lui sont donnés par un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la première loi. 3. Un robot doit protéger son existence tant que cela n'entre pas en conflit avec la première ou la deuxième loi. Comment éviter une intelligence artificielle hostile? En programmant, pour reprendre le terme inventé par Asimov, le cerveau positronique des robots de telle sorte qu'ils servent scrupuleusement les intérêts des humains. Asimov va même jusqu'à classer ces principes par ordre de priorité, ce qui est bien pratique. Dans la mesure où ils doivent respecter ces lois, quelles qu'en soient les conséquences, on peut dire que les robots d'Asimov sont d'abord déontologistes. On notera toutefois un relent conséquentialiste puisque les omissions, en restant passifs, sont traitées sur le même pied que les actions. La tendance se confirmera d'ailleurs en 1985 dans son roman « Les robots et l'Empire ». Asimov y propose une nouvelle loi ayant préséance sur les trois autres, la loi zéro. Zéro. Un robot ne peut pas faire de mal à l'humanité, ni, par son inaction, la mettre en danger. Autrement dit, il y a au moins une conséquence que les robots doivent prendre en compte, la destruction possible de l'humanité, ce que Bostrom nommerait assurément un risque existentiel. Mais qui est donc cet écrivain qui vient jouer dans les plates-bandes des philosophes? Souvent décrit comme un précipité de nerd, d'ego, d'humour et d'inventivité, c'est l'un des maîtres de la science-fiction américaine. Docteur en biochimie, il a passé l'essentiel de son temps à écrire des recueils de nouvelles et des livres de vulgarisation scientifique. L'enfant surdoué qui dévorait en cachette des pulps, ces magazines populaires vendus dans tous les bons dépanneurs, s'était même fixé l'objectif mégalomane de publier 500 livres. Il y est parvenu. Et, mine de rien, il est aussi parvenu à structurer notre imaginaire et notre perception des robots. Avec Asimov, on rompt avec l'esthétique du robot tueur qui déferlait sur les couvertures des premiers magazines de science-fiction. Les robots ne sont pas hostiles, ils sont obéissants, souvent trop obéissants. Ainsi, dans « L'homme bicentenaire », 1976, c'est parce que le robot Andrew se voit maltraité et démantibulé par de jeunes garçons sans pouvoir de se défendre, il doit respecter la première loi, qu'il se donne comme objectif de devenir un homme. Il y parviendra à l'âge vénérable de 200 ans en mettant fin à ses jours. Andrew viole ainsi la troisième loi, mais en plaidant qu'il s'est, par là même, émancipé de son statut de robot. Être humain, nous dit en substance Asimov, c'est pouvoir prendre la décision d'en finir avec l'existence. Philosophe spécialisé en psychologie morale, Martin Gilbert est chercheur en éthique de l'intelligence artificielle à l'Université de Montréal, affilié au Centre de recherche en éthique et à l'Institut de valorisation des données. Il a publié plusieurs livres, dont « Faire la morale aux robots », issu de notre collection « Documents ». C'était « Les choses que Isaac Asimov peut encore nous apprendre », un texte de Martin Gilbert, paru le 7 juillet 2023 dans le magazine « Nouveau projet ».